ce matin, je vous propose de méditer ensemble un passage de l'Ecclésiaste. C'est un passage qui m'a interpellé cet été. Interpellé parce qu'il a été à la fois humiliant pour moi et libérateur. Humiliant parce qu'il m'a montré que, alors que j'étais en train de faire de mon mieux pour agir dans une situation donnée, en essayant de faire de mon mieux et en essayant de compter sur Dieu et de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, ce passage m'a rappelé que, en fait, c'était pas à moi de changer la situation. Mais du coup, libérateur, parce que ça a enlevé ce poids de cette croyance que le pouvoir était entre mes mains d'arriver à changer la situation par mes propres actions. Alors je vous invite ensemble à regarder Ecclésiaste 7, chapitre 7, versets 15 à 22, et je vous propose de prier pour démarrer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour aussi pour le livre de l'Ecclésiaste, ce livre plein de sagesse qui peut parfois être déroutant. On ne sait pas forcément des fois comment rendre cohérent tout ce qui est dit dans ce livre. Mais c'est comme un peu la vie réelle autour de nous, Seigneur. Tu vois qu'elle est complexe, qu'elle nous dépasse, qu'il y a certaines incohérences qu'on n'arrive pas à réconcilier. Mais Seigneur, si on veut ensemble se tourner vers toi ce matin, sachant que toi, Seigneur, toi tu vois clair, que toi tu puisses nous parler avec justesse dans notre situation de vie à chacun, à chacune, au travers de ta parole, Seigneur. Amen. Ecclésiaste 7, versets 15 à 22. J'ai vu tout cela pendant mes jours futiles. Il y a un tel juste qui disparaît par sa justice et un tel méchant qui prolonge son existence par sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas fou, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci, sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs dans une ville. Il n'y a pas sur terre de juste qui fasse le bien sans péché. Ne prête pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car tu sais bien que tu en as toi-même maudit d'autres. L'Ecclésiaste commence ce passage avec un constat un peu déroutant, comme le reste de l'Ecclésiaste, j'ai envie de dire, un constat de vanité. La vanité, le mot evel en hébreu, qui est le mot clé du livre de l'Ecclésiaste, ça veut dire que c'est pas quelque chose forcément qui est connoté de manière péjorative, mais c'est quelque chose qui ne dure pas, comme de la fumée, comme du vent, quelque chose qu'on n'arrive pas non plus à saisir. Et le mot evel, vanité, en hébreu, ça s'écrit de la même manière que Abel, le fils d'Adam et Ève. Et ça fait référence un peu à cette vie-là de Abel qui, on en parle à peine de lui dans la Bible, et tout de suite, en fait, il vient à mourir, il vient à passer, il ne dure pas. C'est un peu ce constat de quelque chose qui ne dure pas que fait l'Ecclésiaste dans ce chapitre-là. Le constat est déroutant parce qu'il dit que certains qui ne cherchent pas la sagesse vivent finalement mieux que d'autres qui s'en préoccupent trop. Quelques versets auparavant, l'Ecclésiaste vient juste de dire l'inverse. Il vient de dire la sagesse, l'utilité de la sagesse de pratiquer, de vivre selon Dieu, ça nous met à l'abri dans la vie de tous les jours. Il le compare à l'argent. Il dit vivre à l'ombre de la sagesse, c'est comme vivre à l'ombre de l'argent. Donc ça nous met comme une sécurité, ça nous met comme un confort vis-à-vis de l'avenir. Mais là, il y a une incohérence parce qu'on voit que finalement, ceux qui pratiquent la sagesse, au lieu d'être protégés, s'autodétruisent. Et ce constat qui est perturbant, ça vient fragiliser notre confiance dans le fait de pratiquer la sagesse. Au mois de juin, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Rescapé qui est venu dans notre église. C'était des personnes qui ont témoigné de difficultés dans leur vie qu'ils ont pu vivre des traumatismes, des abus. Il y en a qui ont même témoigné sur de la dysphorie de genre. Il y en a qui ont parlé aussi sur différents traumatismes. Et de parler comment Dieu les a libérés dans ces situations. Et c'était beau à voir, c'était beau à entendre, de voir que Dieu sait intervenir, Dieu sait nous chercher là où on est bloqué. Mais si je suis honnête avec vous, je suis resté un peu perturbé sur la fin, parce que ce que j'ai retenu de ça, c'était, mais finalement, parmi eux, il y en a pas mal qui étaient enfants de chrétiens. Et pourtant, ils n'ont pas été mis à l'abri de ces choses-là. Et j'ai continué ma réflexion, je me suis dit, mais en fait, la réalité, c'est que parmi nous, il y en a qui ont leurs enfants qui vivent ce genre de choses. Et on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Et c'est venu comme un peu éroder ma confiance dans le fait de, ah bah si on éduque bien ses enfants, il y a forcément de bons résultats. Il y a un constat comme le fait l'Ecclésiaste là, c'est qu'il n'y a pas d'automatisme garanti. Ce n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Et ça vient un peu nous fragiliser. Mais pour bien l'utiliser, alors certains vont lire ce passage en se disant, bon, on passe vite dessus parce qu'il fait un constat qui nous dérange, mais on connaît tout de suite la bonne réponse, on dit oui, bon, il y a Jésus, dans tous les cas, de toute façon, il faut faire confiance à Dieu, on ne comprend pas tout, mais on avance. Mais l'Ecclésiaste, en fait, il construit notre foi si on prend le temps d'entendre ces incohérences. Jacques Ellul va dire, pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe, tout Qohélète est là. Qohélète, c'est le mot en hébreu de l'Ecclésiaste. Donc voilà, la démarche de l'Ecclésiaste, la démarche d'un Qohélète, c'est de désespérer de ce qui trompe pour espérer en ce qui ne trompe pas. Et pour pouvoir saisir ce que l'Ecclésiaste va nous dire ce matin, on a besoin de ne pas passer trop vite sur son constat. On a besoin de s'apesantir, de se dire... Ah, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont incohérentes, des choses qui dysfonctionnent, et d'entendre à l'intérieur de nous aussi ce qui pose question pour pouvoir ensuite mettre notre foi là où c'est vraiment ferme et solide. Et l'Ecclésiaste, ce matin, au travers de ce passage, je vois trois choses, je vois qu'il nous propose deux impasses et qu'il mentionne ensuite deux vérités pour nous montrer une seule issue dans nos situations de vie. Deux impasses. Dans ce passage qu'on vient de lire, l'Ecclésiaste dit « Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas méchant à l'excès. » On peut vite se dire « Bon, ce n'est pas notre cas de figure, il faut éviter les extrêmes et être modéré. » Mais ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit. Être juste à l'excès, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, d'essayer à tout prix d'obéir à Dieu, d'essayer à tout prix de lire sa Bible, d'essayer à tout prix de prier, d'essayer à tout prix d'avoir la bonne attitude dans la bonne situation au bon moment pour être sûr que ça marche. C'est l'exemple de parents qui lisent tellement de bouquins sur l'éducation pour essayer de bien faire, pour essayer de bien élever leurs enfants, mais au final, qui se finissent par être complètement perturbés, complètement sous l'eau, parce que qui sombrent finalement, parce que il y a plein de sons, plein d'échos différents dans l'éducation des enfants, et on ne sait plus où donner de la tête. C'est chercher à bien faire, mais finalement, ça nous auto-détruit. Un autre exemple, c'est lorsqu'on essaye au travail d'appliquer tout ce que l'on connaît. Dans l'expertise de notre travail, mais aussi en termes de relations humaines, et qu'on essaie de tout faire bien correctement, mais au final, on voit que ça ne fonctionne pas et ça nous frustre. Mais c'est aussi dans l'Église, ces déchirements, parce que l'on essaye de défendre sincèrement une position, on essaye de faire au mieux selon ce que la parole de Dieu nous dit, mais au final, on voit qu'on s'auto-détruit les uns les autres par moments dans notre façon de gérer nos positions. Autodétruire par excès de bien vouloir bien faire. En fait, c'est finalement croire qu'il suffit de bien agir pour avoir de bons résultats. Et c'est cela que dénonce le Qohélète, l'Ecclésiaste. C'est une impasse. Croire qu'il suffit de bien agir pour avoir de bons résultats est une impasse. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre impasse, celle d'être méchant à l'excès. Ce n'est pas être Hitler que d'être méchant à l'excès. Un méchant, dans les livres des sagesses bibliques, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte du référentiel divin. C'est quelqu'un qui a son propre référentiel pour sa vie de tous les jours. Donc être méchant à l'excès, c'est vivre en s'affranchissant de toute contrainte. Et c'est, j'ai envie de dire, le leitmotiv du monde autour de nous, qui nous dit, en tout cas au monde occidental, la pensée sous-jacente du monde occidental, c'est tu seras heureux si tu enlèves ce qui te contraint. Tu seras heureux si tu enlèves le mari ou la femme qui est à côté de toi et qui finalement est un frein à ton bonheur. Tu seras heureux si tu enlèves le frein de ceux qui disent que tu es un homme alors que tu te sens femme. Ça, c'est des cas extrêmes, mais on l'a aussi dans notre vie de tous les jours. Tu seras heureuse si tu enlèves telle ou telle contrainte. Il y a une forme de rejet de l'éthique chrétienne. Ça, c'est être méchant à l'excès. C'est envoyer tout balader parce que c'est trop dur. Ça, c'est la manière active de rejeter l'éthique chrétienne, mais il y a la manière passive aussi. Lorsque on a eu beau essayer toute notre enfance, toute notre vie, de répondre aux critères, de suivre ce que nous a enseigné la Bible, on a essayé de pratiquer ce qui nous a été dit à la rentrée, de chaque année ou alors de chaque nouvel an, de se dire on va un peu plus faire des efforts, mais qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, on se dit, on n'arrive même plus à le contenir parce que ça peut exploser en fait. Ça peut exploser de se dire mais j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est une prison à ciel ouvert que d'essayer de marcher avec Dieu, c'est trop compliqué. Et au bout d'un moment, on peut aussi envoyer tout balader. C'est croire, finalement, que la vie serait plus épanouissante sans contrainte. Voici les deux impasses que le Qohélète, l'Ecclésiaste, nous propose de ne pas suivre. Mais du coup, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux à suivre, mais qui n'est pas clairement défini. Est-ce que c'est un entre-deux où, ben, du coup, on évite de tomber dans les extrêmes, on vit une vie de chrétien, et puis, on fait de notre mieux, et puis Dieu est plein de grâce, et puis ça ira bien. Mais des fois, dans cet entre-deux indéfini, on peut presque devenir tiède. On peut s'éteindre un petit peu, parce que c'est pas suffisamment clair. Et ce qui est frustrant dans ce passage-là, c'est que cet entre-deux ne semble pas en adéquation avec l'exigence que le Qohélète réaffirme par la suite. Il dit, oui, mais il faut éviter les extrêmes, mais il faut quand même vivre dans la crainte de Dieu. Alors comment on fait? Comment on fait pour clarifier cette troisième voie, parce qu'il n'y a pas de place pour l'autodétermination, c'est pas moi qui vais fixer les règles, il n'y a pas de place pour le relativisme, où je vais relativiser les contraintes qui me sont données. Il n'y a pas de place non plus pour l'immobilisme. Alors comment faire? L'Ecclésiaste nous propose de regarder à deux vérités pour cela. Deux vérités qui encadrent le texte que l'on a lu. Dans le chapitre 7, il y a deux passages où le Qohélète, l'Ecclésiaste, au travers de... Il va réfléchir sur des choses de la vie de tous les jours. Il va partager des constats. Mais il y a seulement deux endroits où il va dire des vérités affirmé sur Dieu et par conséquent sur nous aussi. Ces deux passages, il dit en sorte, en résumé, il dit deux choses. Il va dire que personne ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Et de l'autre côté, il va dire que tout le monde tord ce que Dieu a fait droit. Je vous invite à lire ensemble les versets qui disent cela. C'est au verset... Alors, ce n'est pas les bons numéros... Mais c'est 13, ouais. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, regarde, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. Et l'autre, voilà seulement ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les humains droits, mais eux ont cherché deux vérités, au début, elles piquent. Elles piquent parce que Dieu nous demande d'agir correctement et en même temps, il nous dit que ben, il n'y aura pas forcément de résultat si on agit bien parce que c'est aléatoire, finalement. On n'arrive pas, on n'a pas la maîtrise sur notre avenir. Elles piquent, on a envie peut-être de dire à Dieu, ben, t'es un peu dur avec nous. Pourquoi ça ne serait pas plus simple? Pourquoi tu ne fais pas les choses plus simples? Tu nous demandes de faire quelque chose, on obéit, et puis ça se passe bien. Ça serait plus simple quand même. Mais ce n'est pas comme ça. Mais finalement, ces vérités, si on continue, on se rend compte qu'elles libèrent. Elles libèrent parce qu'elles nous mettent face à la réalité. La réalité de notre impuissance à changer le présent. Personne ne peut remettre droit ce que Dieu a tordu. Ce n'est pas moi qui vais changer la situation. Quand je vous dis que ce passage m'a parlé, c'est qu'il y a, dans une situation donnée, je m'étais dit, tiens, je vois quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très bien. Il se trouve que dans ma personnalité, ça fait plutôt partie de mes traits les plus marqués, d'essayer d'optimiser les choses, d'essayer de rectifier ce qui va pas bien. Donc naturellement, dans cette situation, je me dis, bah, tiens, je vais essayer de participer, d'interagir, de donner mon avis pour qu'on avance dans la situation donnée. J'essaye une première fois, mais il n'y a pas de répondant en face, enfin, je vois que je suis incompris, j'essaye une deuxième fois, ça ne marche toujours pas. Et au final, je finis par être amer vis-à-vis de moi-même, amer vis-à-vis des autres, et bloqué en me disant, mais je ne sais pas comment faire, j'essaye de faire tout ce qu'il faut, j'essaye d'avancer en toute honnêteté, en comptant sur Dieu, mais ça ne marche pas. Et c'est là où je me suis pris la baffe en disant, mais en fait, c'est pas toi qui vas changer la situation. Je suis impuissant à changer le présent dans cette situation donnée. Et cette réalité est libératrice parce qu'elle nous enlève le poids de cette responsabilité de changer la situation. Ça enlève le poids des épaules de la maman qui se dit, il faut absolument que mon enfant soit bien habillé, qu'il ait bien son goûter pour qu'il réussisse bien sa journée. Ça enlève le poids de là où on dit il faut que ça change, sinon c'est pas possible. Ça nous libère aussi parce que ça nous met face à notre absence de contrôle de l'avenir. Si on en revient à l'éducation des enfants, ça nous met face à cette réalité que j'aurais beau faire tous les efforts, j'aurais beau éduquer au mieux mes enfants, je ne garantis pas leur avenir. Et ça ne veut pas dire que c'est inutile, on va le voir par la suite, mais cette absence d'équation mathématique qui dit tu sèmes là et tu vas récolter exactement ça par la suite, ça vient nous libérer parce que sinon on se dit bah, c'est forcément de notre faute, c'est forcément nous qui avons pas fait assez, c'est forcément nous qui aurions dû faire mieux, qui aurions dû faire plus. Si je reviens à Rescapé, moi, première réaction, c'était de me dire, ah, mais les parents de ces enfants, ils ont dû louper quelque chose. Et après, je me suis repris, ben non, peut-être que moi aussi, en fait, peut-être que moi aussi, j'en fais pas assez, peut-être qu'il faudrait que je fasse plus attention à ça. Ah oui, oh, punaise. Et puis, j'ai telle zone d'ombre aussi dans ma vie, peut-être que ça peut les amener à ce que mes enfants vivent des choses terribles par la suite. Vous voyez, cette pression de faire bien les choses pour assurer l'avenir, cette réalité-là vient nous en libérer, parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'avenir. Mais cette liberté, cette réalité vient aussi nous dire que nous sommes pervertis. La phrase qui dit que tout le monde tord ce que Dieu a fait droit, c'est pour nous rappeler que si on arrête d'essayer de faire bien, eh ben on va forcément faire mal. On va forcément se tromper dans cette voie intermédiaire. On va forcément, au bout d'un moment, glisser vers du relativisme. On va forcément glisser vers le fait d'avoir nos propres référentiels plutôt que de suivre celui de Dieu. Notre condition à nous, c'est celle de quelqu'un qui fait un trail en pleine nuit, une course dans la montagne, en pleine nuit sur un sommet, où on est en fait sans leur torche frontale et sans montre GPS pour nous guider. Un trailer dans la nuit pour connaître le chemin et pas tomber dans les ravins. Il a besoin d'une lampe frontale, il a besoin d'une montre GPS pour lui dire où est-ce qu'il est et où est-ce qu'il doit aller. Mais nous, notre condition, c'est d'être un trailer sans notre lampe frontale et sans notre GPS. Ça veut dire que forcément, on va avancer dans le noir et forcément, on va tomber. Forcément, on va se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux vérités ? Ces deux vérités, elles viennent pour nous éviter d'espérer y arriver par nous-mêmes. Elles nous poussent finalement vers notre besoin d'avoir un guide. Elles nous poussent vers notre besoin de faire appel à Dieu. Et c'est là l'issue que nous propose l'Ecclésiaste. Suivre le guide. Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. En hébreu, pour dire retenir et laisser, ça fait référence à la main. C'est le mot pour faire référence, pour dire tu tiens avec ta main et ne laisse pas échapper cela, ça veut dire ne laisse pas échapper avec ta main. Et je trouvais ça intéressant parce que dans tout ce passage-là, c'est une question de lâcher prise là où on veut avoir du contrôle, ou lâcher prise là où on a des mauvaises espérances, et en même temps, tenir ferme la main de Dieu pour ne pas y aller tout seul dans cette vie, dans cette troisième voie. Ne pas y aller tout seul et tenir la main de Dieu. Celui qui craint Dieu, celui qui plaît Dieu à Dieu, c'est là notre troisième voie, c'est là notre chemin de tous les jours. Ce n'est pas une exigence de plus à essayer de satisfaire parce qu'on en est incapable. Il n'y a que Jésus qui a réussi à plaire à Dieu. Il n'y a que Jésus qui a réussi à vivre une vie devant Dieu pleinement, parfaitement. Mais l'invitation qui nous est faite, c'est justement de suivre ce guide-là, de suivre Jésus dans notre vie de tous les jours. Alors on le sait tout ça, mais dans la pratique, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend les informations que Dieu nous donne, que la Bible nous donne, que Jésus nous donne, on dit « Ok, j'ai compris, je les télécharge et puis j'essaye d'y arriver par moi-même. » Mais l'invitation qui nous est faite, c'est plutôt de dire « Vas-y, essaye par toi-même, mais sois en dialogue avec moi. Prends la main de Dieu, ne la lâche pas, n'y va pas tout seul. » Dans les deux impasses, on voit que finalement, le problème, c'était l'indépendance. L'indépendance de se dire « C'est bon, j'ai tout compris, j'ai plus qu'à appliquer par moi-même. Et j'ai pas besoin de toi, Dieu, finalement. » Voire même « Je t'en veux quand ça marche pas. » Ou l'indépendance de dire « C'est trop compliqué, j'envoie tout balader. » Avec les deux vérités, le Qohélète, l'Ecclésiaste nous rappelle que c'est pas ça la réalité dans le monde dans lequel on vit. C'est pas ça le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, c'est que nous sommes dépendants de Dieu. Il y a des choses qui nous échappent et que lui seul tient dans sa main. Et l'issue qui nous est offerte, c'est de marcher en autonomie avec Jésus. Non pas comme des pantins, en faisant tout ce que lui a prévu et en ayant zéro avis dessus, mais en s'appropriant les choses, en ayant nos propres idées, nos propres expériences, mais en marchant dans la main avec Dieu, en dialoguant avec lui. Et c'est cette troisième voie qui nous est offerte, celle qui, par avance, on ne sait pas, on ne connaît pas toutes les étapes. Là où, par avance, on ne sait pas comment on va s'y prendre. Mais on dit à Dieu, tu es avec moi, on va y aller ensemble. On va y aller un pas après l'autre, et je vais faire de mon mieux, mais je vais surtout aussi dialoguer avec toi le long du chemin. Et tu vas me conduire, me guider. Jésus nous a laissé une promesse, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et on peut avancer avec cette promesse. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à l'entendre. Mais Dieu a fait cette promesse. Et vous arriverez à entendre sa voix dans ces moments-là. Alors, dans quel domaine suis-je dépendant ? Dans quel domaine j'ai dit à Dieu, c'est bon, j'ai tout compris, je vais faire ce que tu m'as demandé de faire et je vais essayer d'y arriver tout seul ? Ou à contrario, dans quel domaine j'y arrive plus, j'ai juste mis le truc sur l'étagère, j'ai juste dit, Seigneur, c'est trop compliqué, j'arrête de regarder ce problème. Où est-ce que je suis indépendant et où est-ce que j'ai besoin de revenir à Dieu et de dire, Seigneur, viens, je veux prendre ta main. Je ne sais pas comment faire, ça peut me faire peur, mais je veux venir à toi et marcher avec toi dans cette troisième voie. Lâcher prise sans lâcher ta main. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu connais nos vies et rien ne t'échappe. Merci parce que tu es aussi complètement libéré de toute attente envers nous. Tu nous connais, on ne te surprend pas, Seigneur. Mais merci parce que toi, tu restes déterminé à nous aimer, déterminé à être présent avec nous, à nous éduquer, à nous faire avancer. Individuellement, mais aussi en tant qu'Église, Seigneur. Et Seigneur, on veut saisir ce matin ce que tu nous dis, que la sagesse, ce n'est pas appliquer des principes que tu nous donnes seulement. C'est d'abord une personne, c'est d'abord toi, c'est d'abord marcher avec toi. Et Seigneur, on veut apprendre à marcher dans ce nouveau chemin, Seigneur, qui peut nous faire peur parce qu'on ne connaît pas forcément les prochains pas. On veut y aller avec toi. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses nous conduire, nous rassurer, mettre les personnes autour de nous qu'il faut pour nous aider et nous parler avec vérité dans notre situation de vie, Seigneur. Amen. Je vous invite à répondre à cette prédication avec un chant. J'invite l'équipe, les musiciens à me rejoindre. Ce chant, je l'ai choisi justement parce qu'il dit qu'à un moment donné, on a peut-être lâché sa main, mais que c'est le moment de reprendre sa main et d'avancer avec lui, de dire qu'on va continuer à le louer, l'adorer. Louer et adorer Dieu, c'est vivre une vie devant son regard, au quotidien. Je vous invite à vous lever pour ce chant.
Pas trop guider ce chant, nous, pour que ce soit vraiment une appropriation personnelle de chacun et chacune. Détresse.